c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, la paix toujours instable au Mali, l'Europe face à la pire crise migratoire depuis 1945, rubrique santé, les hôpitaux camerounais en manque de réserves de sang pour les transfusions, éducation, les difficultés des universités béninoises, voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus, restez avec nous. Nous ouvrons l'émission par le Mali. Les accords de paix restent très instables. La CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, a claqué la porte du comité de suivi de l'accord de paix en début de semaine pour protester, selon eux, de la violation flagrante des différents cessez-le-feu. Des combats avaient opposé les 15, 16 et 17 août dernier la CMA et le GATIA, groupe d'autodéfense pro-gouvernemental, malgré le fait que ces deux groupes aient signé l'accord de paix d'Alger. Représentant du MNLA, un des mouvements qui composent la CMA, Moussa Agassarid revient sur ce nouveau volte-face.
La confiance qui devrait s'établir de mieux en mieux est en train de s'écorcher énormément. Déjà, l'accord qui n'était pas accepté par la majorité de la population de l'Azawad est en train, malheureusement, de partir en l'air. C'est-à-dire que cet accord qui a été bricolé, qui est une sorte de mascarade parce que la coordination n'était pas rassurée, n'était pas vraiment d'accord, mais qu'avec des pressions, avec des menaces, avec des contraintes, la coordination des mouvements de l'Azawad, de la CMA, l'a quand même signée et est en train de vraiment aujourd'hui démontrer ses limites et démontrer qu'en fait il n'y a pas de confiance. Dans cet accord, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de fédéralisme, encore moins d'indépendance, alors que la revendication des populations de l'Azawad, c'est l'autogestion de leur territoire, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination. Donc maintenant, la population et la coordination vont revenir à une position plus radicale, donc plus logique d'ailleurs avec ses revendications principales qu'avant. Et c'est dommage.
Moussa Agassarid, un des mouvements qui fait partie du MNLA, un des mouvements qui compose la coordination des mouvements de l'Azawad. Comment expliquer que 2 ans après le début de l'intervention française Serval au Mali, puis après le déploiement de la MINUSMA, la situation dans le nord du pays reste aussi problématique? La tension reste vive entre les différents groupes rebelles qui se battent régulièrement. Les accords de paix d'Alger sont-ils menacés? Nicolas Pinot a posé la question au chercheur Roland Marchal du Centre d'études de recherche internationale.
Ça m'inquiète, on n'est quand même pas totalement au bord du précipice, mais c'est effectivement des événements qui sont relativement négatifs. C'est totalement souligné dans l'ambiguïté du communiqué du gouvernement malien à propos de cette zone de sécurité. Si vous voulez, ce qui est frappant dans le communiqué du gouvernement malien, c'est qu'il ne dit rien sur ce qui s'est passé à Nefis. Et on peut le regretter. Est-ce que, d'une certaine façon, les milices Imrad qui ont mené les combats agissent en fait pour le gouvernement ou est-ce que le gouvernement n'a rien à voir avec et dans ce cas, devrait quand même condamner de telles actions, parce que s'il y a des problèmes de loi et d'ordre, il faut que ça soit mené par l'armée malienne et pas par des milices qui sont éventuellement pro-gouvernementales. Et là, on sent une ambiguïté qui, évidemment, ressurgit sur l'ensemble du processus. Est-ce que, finalement, les accords d'Alger, qui sont évidemment très loin d'être parfaits, mais qui sont malgré tout des accords, est-ce que, finalement, on n'est pas en train de défaire petit à petit ces accords par toute une série d'actions armées dont on comprend très bien la logique économique mais qui finalement vont tuer l'idée d'une réconciliation.
Mais l'armée malienne dans tout ça?
C'est tout l'objet de la critique du coup d'État et également de la campagne électorale du président Ibeka, hein, de dire qu'on allait refonder une armée malienne, qu'elle allait être l'instrument par excellence de la souveraineté. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce qui se passe est notoirement différent. Et encore une fois, et on l'entend beaucoup ici à Bamako, il y a des calculs politiques qui n'honorent pas les décideurs qui les font, mais qui, d'une certaine façon, sapent plus l'armée malienne, cette nouvelle armée malienne qu'on essaye de reconstituer, que des défaites militaires vis-à-vis de groupes Touareg ou de groupes djihadistes.
Est-ce qu'il n'y a pas un constat d'échec en sachant que les djihadistes opèrent maintenant près de la frontière ivoirienne ou Sévaré, par exemple ?
Personne n'a voulu tirer les leçons de ce qui s'était passé pendant les mois de contrôle par les groupes djihadistes ou islamistes armés du Nord Mali. Et donc on a essayé de revenir au statu quo ante, en sachant que celui-ci, d'une certaine façon, ne répondait plus du tout aux populations, aux désirs des populations. Donc une énorme frustration populaire.
Roland Marchal, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale. La crise des migrants et des réfugiés en Europe est au cœur de l'actualité. Près de 10 000 migrants ont été recensés en Europe de l'Est le week-end dernier, tentant de rejoindre la Hongrie, premier pays de l'Union européenne. En dehors des Balkans, les gardes-côtes italiens ont coordonné le sauvetage de 4 400 migrants en Méditerranée pour la seule journée de samedi, un chiffre record. Pour un éclairage, j'ai joint le chercheur spécialiste des migrations, Jean-Philippe Dedieu.
Je partage entièrement cette inquiétude et je ne suis malheureusement pas le seul. Je crois que ce qui s'est passé à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, où il y a eu des violences policières avec des jets de gaz lacrymogène et de grenades contre des réfugiés, notamment syriens, s'inscrit dans une longue, entre guillemets, histoire depuis maintenant plusieurs années de violences en fait à l'égard et à l'encontre des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, principalement africains. Et ces violences policières, on a pu les constater notamment donc à la frontière gréco-macédonienne et perpétrées par la police macédonienne. Mais il y a eu également des violences policières commises en Grèce contre des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Violences policières qui étaient parfois commises par des policiers qui se trouvaient proches du mouvement d'extrême droite Golden Dawn, Aube Dorée.
Est-ce que pour vous, la libre circulation des personnes, qui est quand même le pilier des accords de Schengen, est-ce que cette libre circulation est menacée ?
Au-delà de Schengen, de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, ce qui me paraît assez frappant, c'est combien l'extraordinaire mauvaise gestion de la crise des réfugiés, ce qu'on appelle « refugee crisis », actuellement remet, à mon sens, totalement en question les fondements et l'esprit de l'Europe et des pères fondateurs de l'Europe. J'étais particulièrement frappé de voir Federica Mogherini, lorsqu'elle évoque cette question des flux migratoires, évoque le démantèlement d'un business model. Donc on a l'impression que l'ensemble du discours, mais également des actions des représentants européens est entièrement guidé par des considérations bien plus financières et économiques que humanitaires. Et je me pose la question de savoir si, par exemple, il y a encore 10 ou 15 ans, lorsque il y avait des personnes telles que Helmut Kohl ou François Mitterrand, donc qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, le traitement de la crise des réfugiés actuelle aurait été celle que nous connaissons. Je crois qu'on observe un changement, le passage d'une génération à une autre avec des personnes qui n'ont pas connu les drames de la Seconde Guerre mondiale, et on arrive là où on en arrive aujourd'hui.
Pour vous, quelles solutions peuvent-elles être trouvées, peuvent-elles être mises en place ?
Les solutions, c'est normalement, lorsque Federica Mogherini a lancé cette opération en mai dernier, il devait y avoir pour résoudre ou apporter des solutions à la crise de réfugiés que nous connaissons actuellement, à la fois un volet resettlement, dans la mesure où l'ensemble des pays de l'Union européenne accueillerait un certain nombre de réfugiés. C'était le premier volet. On sait en fait que cela n'a pas véritablement été accepté. Et le second volet était une opération militaire mise en place, même si elle n'a pas reçu l'accord des Nations Unies.
Jean-Philippe Dedieu, spécialiste des migrations et chercheur à la New York University. Rubrique santé à présent, au Cameroun, SOS du ministre de la Santé publique. Les hôpitaux ont du mal à fournir du sang à tous leurs patients. De Yaoundé, reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Selon le ministre camerounais de la Santé publique André Mamafouda, la situation est critique. Le pays a produit 49 000 poches de sang, loin des 400 000 nécessaires cette année.
Le focus principal est la validation du projet de plan stratégique qui est la reconnaissance du donneur bénévole et régulier par une carte d'identification. La réussite de ce programme est d'avoir une organisation par région où tout le sang collecté est traité dans un endroit disponible. D'équipements adaptés.
Le ravitaillement des banques de sang n'est plus chose évidente, compte tenu des hépatites et du VIH-Sida qui rendent l'activité du don de sang difficile. Pour pallier les problèmes, le gouvernement a pris une batterie de mesures, parmi laquelle la création du programme national de transfusion sanguine. Le docteur Apolline Nwandongo en est le secrétaire permanent.
Nous avons eu des activités, la formation des recruteurs en donneur de sang. Ces recruteurs en donneur de sang sont là pour nous aider à sensibiliser la société civile et les populations sur la problématique du don de sang.
La sensibilisation semble déjà porter des fruits. Certains jeunes Camerounais se mobilisent comme ici au palais des sports de Yaoundé pour donner leur sang pour les militaires blessés sur le front de la lutte contre les groupes terroristes Boko Haram. Pour Perrin Kwenke donateur, c'est un acte patriotique en faveur de 3000 soldats camerounais au fond.
C'est la première fois que je vois mon sang couler dans un cadre de don de sang et je me dis que je suis en train d'accomplir un devoir citoyen. J'invite tous les jeunes à soutenir l'effort de guerre d'un moyen ou d'un autre. Aujourd'hui, nous soutenons par le don de sang.
Les malades chroniques payent aussi les frais de ces manques de sang, comme les souligne Thierry Ndong. Drépanocytaire.
Les personnes qui vivent avec la drépanocytose ont souvent besoin d'être transfusées pour rester en vie. Mais malheureusement, il arrive que les donneurs de sang soient en manque. Dans ces cas, les familles ont recours à des donneurs familiaux. Et ils sont parfois obligés d'utiliser ce sang sans analyse. Ce qui expose les personnes qui doivent recevoir le sang, comme nous les drépanocytaires, à toutes sortes de complications.
Malgré tout, les autorités camerounaises restent optimistes. Une forte thérapie sera administrée aux hôpitaux. C'est ce qui justifie le Comité national de transfusion sanguine en gestation, Moki. Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Au Bénin, à l'instar de plusieurs universités de la sous-région ouest-africaine, l'Université nationale du Bénin fait face à de nombreuses difficultés, dont le manque d'infrastructures, de livres et de manuels didactiques. C'est une situation qui ne facilite pas la vie aux étudiants, nous dit de Cotonou notre correspondante Ginette Fleur en Dande.
Les conditions de vie sur le campus sont tellement pénibles.
C'est une partie du calvaire que traversent les étudiants de l'Université nationale du Bénin, la principale université du pays. Réussir à s'y inscrire est un parcours de combattant et s'asseoir pour suivre les cours reste une épreuve de force. Pour ceux dont les parents sont nantis et qui peuvent s'inscrire dans les universités privées, le problème ne se pose pas. Mais pour les enfants de parents pauvres, le calvaire reste permanent.
Nos conditions de travail sont vraiment déplorables parce que on est au nombre de à peu près 1500 pour 800 ou 600 places. Donc on reste au niveau des fenêtres au dehors pour essayer de prendre notre.
Moi, étant ici du campus, on vit une vie très pénible. Et puis à la chaleur, les brasseurs qui sont placés ne travaillent même pas.
Malgré la construction d'amphithéâtres pour alléger un tant soit peu la tâche aux étudiants, l'un des responsables de la Fédération nationale des étudiants du Bénin se désole des conditions difficiles dans lesquelles ils sont obligés d'étudier pour à la fin devenir accueillir de potentiels chômeurs. Le marché de l'emploi étant très saturé.
Nous avons des problèmes liés aux bibliothèques. Notre bibliothèque centrale qui est là est dépourvue des documents nécessaires à l'apprentissage. Pour le secteur qui concerne la restauration, sur insistance, le budget du CUS cette année a été beaucoup plus concentré dans ce secteur. Pour ce qui est de l'hébergement, c'est encore là un gros problème, un gros souci. Non seulement les bâtiments n'ont pas été professionnés comme cela se devrait, mais également des bâtiments ont été fermés.
Au niveau de l'administration universitaire, on reconnaît l'urgence de l'heure, mais en attendant, quelques solutions ont été trouvées. Le vice-recteur en parle.
Le rectorat a créé un service de mutualisation parce que nous sommes partis du constat que si on gère mieux ces infrastructures, on peut alléger un peu les souffrances des étudiants. Donc ce service a été créé qui permet une utilisation maximale des infrastructures existantes. Donc c'est fini l'époque où, alors que des étudiants de telle entité n'ont pas de salle où faire cours, il y a des salles d'autres entités qui sont inutilisées. Donc on a fini avec cette difficulté. Il y a aussi la décision d'étendre les cours du lundi au samedi. Il y a même des enseignants qui viennent faire des cours les dimanches pour dire que chacun y met un peu du sien pour relever ces défis.
Trouver une porte de sortie paraît donc nécessaire, mais pour le moment, les étudiants sont obligés de faire avec en attendant que les partenaires techniques et financiers ne viennent en aide de l'État à travers la construction de nouvelles salles pour qu'étudier à l'université ne soit plus un casse-tête permanent. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VO Afrique.
Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Alfredo Santos. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, sur VOA Afrique. D'ici là, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, VOA Celle Plus. Nous nous quittons en musique avec le groupe Tal National et leur titre Wangare. Le groupe Tal National, qui est en tournée aux États-Unis, il jouait hier soir au Poisson Rouge à New York. Bonne soirée et bonne nuit à tous.